Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur la résilience à Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire de 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie de Marie-Claude Maillet, organisatrice communautaire, et de Cindy Stewart, technicienne en travail social, qui font partie de l'équipe de proximité du CIUS de l'Estrichus. Bonjour à vous deux.
Bonjour, bonjour. Yann.
Pouvez-vous nous dire d'abord en quelques mots qui vous êtes et comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
Je peux débuter. En fait, moi, j'ai une formation comme psychoéducatrice. Je travaille au niveau du réseau de la santé depuis 1993. Maintenant, organisatrice communautaire depuis 2015. Et puis, j'évolue au sein de l'équipe de proximité depuis sa création en juillet 2016.
Et Cindy?
Moi, dans le fond, je suis technicienne en travail social depuis une quinzaine d'années. J'ai œuvré beaucoup au milieu communautaire ici. Puis, suite à la tragédie, j'ai fait partie de l'équipe de rétablissement, qui était l'équipe mise en place post-tragédie. Puis, ensuite, dans le fond, cette équipe-là s'est éteinte pour faire place à l'équipe de proximité dont je fais partie depuis 2016.
Aujourd'hui, on va parler de la résilience à Lac-Mégantic à la suite de la tragédie ferroviaire de 2013 et plus particulièrement de l'équipe de proximité. Pouvez-vous me dire un peu comment cette équipe-là est née?
En 2015, les enquêtes santé populationnelle faites avec Dr Mélissa Généreux traduisaient des besoins qui s'avéraient vraiment présents dans la communauté. Mais ce qu'on observait à l'accueil des demandes au service de l'accueil psychosocial du réseau de la santé au C3S, il y avait moins de demandes directes reliées à la tragédie. Cela ne se traduisait pas qu'il n'y en avait plus de besoin. Donc, il y a eu une mobilisation en 2016, une journée de réflexion avec les principaux partenaires du milieu, où est-ce qu'on a assis ensemble les gens pour comprendre qu'est-ce qui se passait. On a fait venir aussi des personnes ressources au niveau des chercheurs, des professeurs, entre autres Daniel Maltais de l'Université du Québec à Chicoutimi, pour comprendre un peu ce qu'était le rétablissement à long terme. Et de cette journée-là, ensuite, il y avait des actions qui étaient discutées et priorisées, dont une était « continuons à faire un travail semblable de l'équipe de rétablissement », c'est-à-dire d'aller vers les gens. Donc ça, c'était une action qui a été mise en valeur à cette journée de réflexion-là. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, avec la mobilisation du milieu qui nommait la pertinence de continuer de cette façon-là, et la volonté politique, on a pu avoir la création de l'équipe de proximité qui, au départ, était trois ressources temps plein. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un budget récurrent au niveau du ministère de la Santé.
D'accord. Et pouvez-vous me dire qui fait partie de l'équipe de proximité en ce moment?
Dans le fond, la composition de l'équipe, on compte, comme Marc-Claude le nommait, dans le fond, trois ressources, là, qui étaient Marc-Claude, organisatrice communautaire, moi, technicienne en travail social, puis aussi une travailleuse sociale qui est aujourd'hui Audrey Auclair. On a aussi eu un ajout avec un autre budget suite à une enquête qui a été faite auprès des jeunes. Donc, on a une travailleuse sociale, Magali Bellavance, qui est vraiment travailleuse sociale, mais vraiment le volet jeunesse de l'équipe. On a Chantal Clusio qui est kinésiologue et Catherine Bouffard qui est nutritionniste. Donc, ça fait une équipe vraiment avec une vision de santé globale.
Et quels sont les rôles de l'équipe de proximité et au moment de sa création, c'était quoi les besoins les plus urgents?
Bien, comme Marc-Claude le nommait tantôt, l'équipe de rétablissement était vouée à s'éteindre, à plus se fondre aux services généraux réguliers du CLSC. Puis, ce qu'on voyait sur le terrain, c'était qu'il y avait encore des besoins, mais les gens n'allaient pas nécessairement vers les services dits réguliers, j'ai envie de dire. Donc, ça a été pour nous, dans le fond, d'offrir une façon différente de répondre à ces besoins-là, vraiment autant individuels, de groupe que collectif.
Et concrètement, vous avez fait comment pour identifier ces besoins-là auprès de la population?
Bien, c'est sûr que la particularité, une des particularités de l'équipe de proximité, c'est vraiment, on appelle ça le « reaching out », le « aller vers ». Donc, moi, plus particulièrement, je vais dans les bars, les restaurants, les lieux de rassemblement, les parcs, pour vraiment aller prendre le pouls de la communauté. Ce que je faisais déjà avec l'équipe de rétablissement, donc que j'ai poursuivi avec l'équipe de proximité, c'était, et c'est encore une façon très accessible, non jugeante ou stigmatisante d'aller vers les gens. Les gens me connaissent, se sentent à l'aise dans cette façon de faire-là parce que je vais vers eux dans leur milieu, dans ce qu'ils sont à l'aise, dans leur environnement. Donc, c'est une façon pour eux très... ça a l'air d'une petite entrevue, comme une petite jasette comme ça sur le coin de la rue, mais qui, moi, me donne beaucoup d'informations sur des préoccupations ou des besoins ou des forces, des belles réalisations. Donc, c'est une façon de faire qui est très propre à l'équipe aussi, mais il y en a plein d'autres.
Oui, bien sûr, on est en lien, nous, avec des partenaires. À la table des partenaires, l'équipe de proximité y est présente. On a beaucoup accès à comment ça se passe dans les différents milieux. Donc ça, c'est une façon de recueillir les besoins parce qu'on est en lien constamment avec nos partenaires. Mais aussi en étant dans les actions collectives, en mettant en place des différents projets, bien, on a une panoplie de gens à qui au quotidien, on a des liens. Donc, par eux, on reçoit aussi ce qui se passe sur le terrain, comment eux autres ils voient ça, puis nomment les besoins. Des fois, ce n'est pas nommé clairement, nous avons besoin d'eux, hein? Mais c'est certain que cette collecte d'informations-là, le partage entre les membres de l'équipe, la compréhension commune aussi qu'on dégage, bien, nous amène à comprendre c'est quoi les besoins.
Donc, je comprends que dans la communauté, il y a eu un constat à l'effet que certains besoins persistaient dans le temps, là.
Plusieurs personnes étaient impactées par la tragédie, parce que là, on se rapporte, là, on était près quand même de la tragédie, mais on s'éloignait dans le temps. En 2015, ça faisait une couple d'années. Donc, pour certains, les besoins qui, en 2013, étaient dans l'urgence, c'était évident, les besoins. Tu sais, j'ai plus de maison. J'ai plus d'emploi. C'est très, très relié à la tragédie. J'ai perdu quelqu'un de proche. Je suis en deuil. C'est très clair, très rattaché. Plus le temps s'écoulait, il y a eu vraiment... on a senti ça. On n'avait pas le droit de trouver ça difficile si on n'avait pas vécu ces situations-là, donc, que je viens de nommer là. Donc, les gens nommaient pas l'impact, mais tout le monde, c'est une communauté entière qui était touchée. Puis, ça allait même, si tu venais pas de Lac-Mégantic, hey, là, t'avais pas le droit de trouver ça dur. T'sais, les gens se donnaient pas le droit, c'était pas validé de trouver ça difficile. Donc, c'était pas nommé. Donc, surtout pas, on n'allait pas chercher de l'aide parce qu'on n'avait pas le droit de trouver ça difficile. Donc, ça a été vraiment... plus le temps s'écoulait, mais les difficultés demeuraient. Et les enquêtes santé populationnelle le démontraient parce qu'on avait des données qui nous parlaient, hein, sur, mettons, 800 personnes dans la MRC du Granit qui répondent à un questionnaire, un échange téléphonique. C'était très clair que les besoins étaient encore présents, mais ils ne se traduisaient pas par des demandes.
Comment s'est coordonné le travail avec les différents partenaires?
Bien, dès les premières semaines de l'équipe de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait une page blanche. Hein? Alors, c'était tout nouveau, pas nécessairement de référent qui avait la même réalité que nous. Donc, ce qu'on s'est dit, nous, comme équipe, c'est qu'on est allé faire une tournée de milieu, d'aller rencontrer les organismes communautaires, tous les acteurs, dans le fond, avec un potentiel qu'on pouvait intervenir avec eux, pour aller les voir, des fois même les rassurer par rapport à nous, ce qu'on venait déployer dans la communauté. Donc, ça a été cette façon-là vraiment de partir avec réfléchissons ensemble, mettons sur la table quelles sont nos interrogations, puis nous, de vraiment aller avec... dans l'esprit de... On avait une petite phrase qu'on se trouvait bien drôle, là, mais tu sais, on disait « on est surtout là pour pas nuire ». C'est surtout ça qu'on veut pas faire. Donc, comment on peut être complémentaire à ce qui se passe déjà dans le milieu? des fois de venir bonifier ou dire ben ça, ça se passe déjà dans le milieu, on va plutôt y s'y référer, puis nous aller dans un autre angle pour développer quelque chose là.
Et dites-moi, comment la population a réagi à votre présence? Ça a été quoi les impacts de votre travail dans la vie des citoyens?
Bien, déjà, comme je le mets tantôt, post-tragédie, il y a eu l'équipe de rétablissement, qui était vraiment une équipe en surplus composée de travailleurs sociaux, de différents horizons au Québec, dans le fond, pour venir composer cette équipe-là, pour permettre, dans le fond, de dégager un peu, de venir en support aux intervenants du CLSC ici au Granit. Donc, quand cette équipe-là commençait à s'éteindre, donc repartait, les gens se disaient, bien là, il reste, qui va rester ici, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, ça se veut un peu rassurant pour la population que cette équipe-là poursuive un peu dans cette lignée-là, soit teintée de vraiment tout ce qui était post-tragédie pour venir se déployer dans leur communauté. Fait que ça a été rassurant pour les gens de savoir qu'il allait rester quelqu'un de cette équipe-là.
Puis aussi, le réflexe s'est développé par les partenaires, les différents acteurs, de nous interpeller. Au cours des années, il y a eu plein d'effets collatéraux de la tragédie ferroviaire. Par exemple, la voie de contournement, ça implique énormément de choses. Il y a eu les BAP autour de ça. Donc, on interpellait l'équipe de proximité en le sens, venez aux rencontres, soyez pas loin. Comme ça, c'est des figures qui sont connus dans la communauté. Si les gens ont besoin, bien, vous êtes là. Puis nous aussi, ça nous permettait d'entendre la même information qu'eux. Donc, on était capable par la suite de recadrer si des fois les gens avaient mal compris, parce qu'il y a toute l'émotivité des gens aussi qui vivent à travers ça. Donc, la présence à l'intérieur de ce genre de rencontre-là, bien, était rassurant pour les deux parties, pour les gens qui venaient présenter le dénouement de toutes les procédures, mais aussi pour les citoyens qui savaient qu'on était là au besoin.
Selon vous, comment on peut se rétablir collectivement à la suite d'une telle tragédie?
Effectivement, c'est une très grande question qui est jamais terminée. Hein? Dans le fond, ça se construit toujours parce que la résilience, je reprends des expressions là, de personnes qui nous parlent beaucoup de résilience, c'est comme un muscle. Un muscle, il faut continuellement le renforcer si on veut qu'il soit à sa pleine. Donc, la résilience, c'est permanent, ça se développe continuellement. Mais nous, on a nommé quand même ce qu'on pense qui est comme... premièrement, c'est de réunir les gens. Se donner des moments pour se réunir, prendre un recul. Une des forces qu'on a eues comme équipe de proximité, c'est qu'on avait des chercheurs autour de nous qui nous permettaient de prendre du recul, de mieux comprendre. Quand on comprend bien, ensuite on voit qu'est-ce qui est pertinent à faire, puis on se mobilise. Mais ça commence par la compréhension. Donc, on avait des équipes, on avait Tracy O'Sullivan de l'Université d'Ottawa, on avait de l'équipe de santé publique Geneviève Petit, Daniel Maltais de l'Université à Chicoutimi, Mélissa Généreux qui, bien sûr, a fait le tour de plusieurs post-tragédies qui étaient capables d'alimenter aussi notre réflexion sur le comment faire. Donc, un, se réunir, prendre du temps pour jaser, pour prendre un recul, pour mieux comprendre et savoir que c'est sur le long terme qu'on va être en travailler notre résilience, travailler le rétablissement. Donc ça, c'était une première chose. Et je reprends les termes de Geneviève Petit qui disait, on avait trois éléments clés, la tête, les mains et le cœur. La tête, c'est les données, être capable de documenter ce qui se passe sur le terrain pour mieux comprendre. Les mains, c'est les actions que les partenaires, après avoir compris un peu ce qui se passait, qu'est-ce qu'on met en place. Et le cœur, c'est la mobilisation, c'est l'engagement de chacun dans les actions puis dans la compréhension. Donc, vraiment se réunir pour ensuite passer à l'action. Parce que c'est pas juste du « on jase pour comprendre ». Et maintenant, quels gestes on peut poser, qui est pertinent, qui a du sens pour une communauté, puis comment on l'implique, la communauté. Réussir à se rétablir collectivement, ça passe beaucoup par donner de la place à chacun pour y contribuer aussi. Chacun, c'est tous. D'entrée de jeu, on disait, c'est une communauté entière qui est touchée. Et on s'est tout le temps dit, on en fait partie. Donc, on avait besoin de ce recul-là aussi, parce que c'est dangereux, à un moment donné, d'avoir le nez trop collé sur l'arbre.
Pouvez-vous nous parler des initiatives qui ont émergé en lien avec la réappropriation du territoire de Lac-Mégantic?
Mais je peux débuter avec une des actions suite à la journée de réflexion qu'on a eue en mars 2016. Il y a une des actions, c'était vraiment de donner un espace aux citoyens pour se raconter, pour jaser, pour se réunir. Et la Corderie du Granit, qui était une coopérative de solidarité, a proposé de partir d'un moyen très simple, mais rassembleur, la création de jardins collectifs. Donc, ça a été l'une des premières actions à laquelle on s'est joint pour travailler ensemble. Donc, les jardins collectifs, c'était un endroit, il y avait une personne qui était là plusieurs heures par semaine pour expliquer aux gens ce qu'on faisait. Et le but ultime, c'était, dans le fond, de créer une animation. C'était à ce moment-là près de la marina. L'été d'ensuite, on a traversé les bacs plus près de la gare, parce que nos locaux étaient situés à la gare, avec la Corderie. Et ensuite, on est découlé de faire des actions les mardis soirs animés. Donc, c'était encore là, c'était des différents prétextes pour permettre aux gens de s'arrêter, se mettre à jaser autour des bacs, de créer des activités stimulé par la Corderie et l'équipe de proximité, mais réalisé par des citoyens. Quelqu'un qui est habile au piano, qui vient au piano public, qui a des chants qui se fait. Donc, des actions très simples, mais qui créaient des groupes de rassemblement à ce moment-là, quand on recule en 2016, là, on était vraiment dans un désert ici. Il n'y avait vraiment pas grand-chose qui est élevé. Donc, ça a été les premiers pas, entre autres, ces actions-là qui ont commencé à créer un mouvement où est-ce que les gens se rassemblaient de plus en plus.
Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est la solitude existentielle?
La solitude existentielle, c'est une caractéristique de la résilience. Ena, en fait, d'où émergent ces caractéristiques-là, parlait de solitude existentielle comme une caractéristique qui est la reconnaissance qu'on a une capacité à affronter puis gérer certaines expériences seules. Et ça, c'en est une caractéristique de la résilience. Entre autres, il y a aussi la persévérance et notre habilité à continuer malgré que ce soit difficile. Le sens, c'est la reconnaissance que la vie a un but. L'indépendance, reconnaissance de ses forces personnelles qu'on met à contribution, d'entre autres, pour passer à travers les difficultés seules. Hein? Et équanimité, c'est une vision stable de la vie, des expériences. C'est comme les difficultés, ça fait partie de la vie. On a un certain détachement parce qu'on prend un recul puis dire, ben dans mon parcours de vie, oui, il y a ça. On y donne un sens, puis on a une certaine sérénité par rapport à ça. Puis aussi le sens de l'humour. Fait que en fait, solitude existentielle, c'est plus une caractéristique qui permet de développer une résilience.
Maintenant, j'aimerais savoir, depuis la mise en place de l'équipe de proximité, avez-vous observé des changements dans la manière de travailler avec les acteurs locaux, avec les personnes les plus vulnérables et avec le milieu?
Pour nous, l'équilibre processus-résultat est très important. Et le processus, c'est d'impliquer les gens le plus tôt possible dans une démarche pour que ça ait du sens pour eux puis parce qu'on a besoin d'eux. Donc, c'est certain qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, c'est qu'on interpelle, on donne de la place le plus possible à l'ensemble des personnes concernées dans une situation. Par exemple, l'espace mémoire à Lac-Mégantic qui a été construit, L'équipe de proximité a interpellé le conseil municipal pour leur dire, nous, ce qu'on a appris dans les post-tragédies, c'est que faut. Il est fortement suggéré d'impliquer différents groupes de la communauté à la conception d'un espace mémoire. Et c'est ce que la municipalité a accepté. Puis ça a été un très long processus, avec ses hauts et ses bas, mais travailler de concert avec les citoyens pour construire un projet de longue haleine de cette façon-là, c'est quand même quelque chose où est-ce qu'on a, la municipalité a donné de la place largement à ce comité-là.
Pourriez-vous nous présenter un bon coup de l'équipe de proximité depuis sa création?
Bien, le premier bon coup qui nous venait en tête, c'était d'être installé hors établissement. Parce que moi, je vois les gens, en individuel ou même des groupes, mais des gens qui n'iraient pas demander de l'aide aux services conventionnels. C'est des gens que je vois, tu sais, je parlais entre autres au restaurant ou au bar, mais que je vois dans leur milieu, puis qui ne pensent pas avec cette situation-là, qui pourraient avoir de l'aide externe. Puis je fais un peu la promotion, tu sais, de tout ce qui est... On n'est pas obligé de passer à travers des affaires, des obstacles de notre vie. On va tous en vivre, mais on n'est pas obligé de passer seul. On peut être accompagné, on peut les être supporté, on peut les prendre à deux, les réfléchir à deux aussi. Donc, c'est un peu ce message-là que je propose. Puis si on avait été établissement, on aurait échappé des gens. C'est sûr que des gens ne seraient pas venus vers ou nous, ça ne nous aurait pas permis de... Ben, en disant aux gens, ben si tu veux passer au bureau, je t'attends local au CLSC... je ne sais pas si ça leur aurait eu le même écho. Donc, le fait qu'on soit au centre-ville, accessible, près des lieux, justement, où a eu lieu la tragédie, mais aussi des lieux où les gens plus vulnérables ou avec moins de moyens de transport, des fois, d'aller à l'hôpital en partant du centre-ville, ça peut être déjà une embûche. Donc, qu'on soit plus centre-ville, avec les gens autour, la ville, les commerçants. Un bon exemple pour illustrer ça, je trouve que c'est la place éphémère. Moi, cette place éphémère-là, c'est un beau terrain de jeu, dans le sens où j'invite des gens qui souffrent d'isolement, même d'anxiété, à venir faire un premier petit pas, de venir me rejoindre, sachant que je suis à la place éphémère ce soir-là. Je les invite à venir me rejoindre, faire un premier pas, goûter, oser. Déjà là, donner rendez-vous aux gens aussi à la place éphémère, dire « ben ça tente, je suis à la place éphémère ce soir, si t'as envie de venir prendre une jasette, te divertir, te changer les idées. » Donc, il y a comme ce volet-là, puis il y a des gens qui sont peut-être plus vulnérables ou qui vivent un moment plus difficile. Puis aussi, on a le gars qui va faire le karaoké pour animer le monde, qui va bien, qui a envie de partager ça. Donc, cette place-là, on rejoint tout notre monde, hein? Pas besoin d'aller mal ou de pleurer sans arrêt. C'est juste un endroit où tout se peut. Il s'agit de l'organiser puis de le faire, dans le fond, avec, c'est ça, accessibilité.
Quels principes du développement des communautés ressortent le plus dans votre initiative?
Bien, c'est certain que tout ce qui est la mobilisation. Bien sûr, il y a de la concertation parce que d'entrée de jeu, je dois nommer que la table des partenaires est fondée depuis un minimum de, je vais dire, 10 ans. Là, c'est peut-être un petit peu plus, je n'ai pas la date exacte en tête, mais c'est vraiment une table des partenaires pour le développement local des communautés. Donc, c'est quelque chose au niveau de la concertation où siège une grande majorité de directions de différents organismes ont comme volonté pour leur communauté. Fait que la concertation autour de ça, elle est présente dans le milieu depuis longtemps. Et ça a été un des éléments, d'ailleurs, très fort de notre communauté qui a permis de, à travers la tragédie, hein, c'était une instance qui était déjà en place. Et ce lieu-là a permis aux gens aussi une place pour s'accueillir dans les difficultés que les différents organismes vivaient. Donc, elle a servi vraiment d'un soutien aux partenaires dans le temps de la crise, parce que les actions précises de la table n'étaient pas nécessairement poursuivies. Là, il y avait la gestion de l'urgence dans chacun des directions. Mais cette concertation-là, c'est quelque chose qui est très présent dans la communauté depuis très longtemps par les différentes tables de concertation. Fait que ça, c'est un élément très fort dans notre coin. La mobilisation dans l'équipe de proximité, ça a été dès le départ. C'était toujours très important d'inclure rapidement dans le processus des citoyens pour que, dans la participation citoyenne, comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps, c'est comprendre. Et le comprendre, faut le faire ensemble. Après, la pertinence, puis ensuite la mobilisation. Quand on comprend, on voit pourquoi des gestes deviennent pertinents et on se mobilise. On s'est tout le temps dit aussi, il faut partir des forces vives de ce qui existe déjà. Allons rejoindre. Rejoindre, c'est l'individu, mais rejoindre aussi, c'est les groupes qui existent déjà, les organismes communautaires. Il faut travailler avec ce qu'il y a en place. Bien sûr, aussi, tout ce qui est le développement des capacités du pouvoir d'agir des individus, mais collectifs aussi. Fait que c'est certain que nos différents projets, quand on les réfléchit, en tout cas, moi, c'est un de mes rôles, je dirais, très principal, c'est comme qu'est-ce qu'on veut développer dans notre communauté, puis cette action-là, comment elle va permettre aux gens de faire des pas pour devenir de plus en plus compétente, je vais le nommer comme ça, là. Oui, ça passe par l'individu, dans les compétences individuelles, mais de groupe. Et comment on accompagne ces changements-là? Se donner des temps, je parlais de recul tout à l'heure, se donner des temps pour se regarder aller, prendre du recul, dire, OK, ce qu'on a, on en entreprend, quels impacts qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou différent, d'être tout le temps dans un mode de développement. Et développement des compétences des groupes, des individus, puis de la communauté.
Et maintenant, avec tout ce qui a été fait depuis 2013, d'après vous, qu'est-ce qui resterait à faire pour améliorer la résilience à Lac-Mégantic?
Je reprendrais l'analogie du muscle. La résilience, c'est pas un aboutissement. Ça se muscle. Et plus une communauté va muscler sa résilience, va donner des occasions à ses membres, les individus qui la forment, de la pratiquer, hein, comme on s'entraîne au gym pour que nos muscles soient vivants, en force, vigoureux, bien, il faut continuer à stimuler. Donc, ce qui reste, c'est de développer la compréhension aussi des gens que ça reste. Ils font partie de la solution. Ça va être toujours à soutenir. Parce que des fois, pour différentes raisons, là, ça s'explique toujours, mais les gens sont des fois en mode plutôt « soignez-nous ». Tu sais, je vais le dire comme ça, là, mais il y a comme un changement de paradigme. C'est comme, la santé, elle vient aussi par vous. Et on a besoin de vous, tu sais, pour qu'une communauté soit vivante. Fait que c'est pas juste des leaders de communauté qui amènent une résilience. Ça part aussi, surtout, je dirais. En fait, c'est cet équilibre-là, hein, c'est de donner de la place continuellement, soutenir, à donner de la place, à stimuler les citoyens, les individus, les personnes à contribuer. Fait que je pense que, comme équipe, qu'on soit là, qu'on ramène des principes, qu'on se les rappelle, qu'on les renomme, qu'on y réfléchisse ensemble, on fait des pas. Puis, ça s'intègre.
Maintenant, pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui vous soutient dans votre travail en développement des communautés?
Tout le monde fait partie de la solution. On ne peut pas prétendre, par exemple, nous, c'est certain que c'est très facile de penser au réseau de la santé quand vient le temps de parler du rétablissement d'une communauté. C'est comme évident. Mais on ne peut surtout pas prétendre, plus les contextes sont complexes, plus c'est difficile de répondre aux nombreux besoins. Fait que si on prétend avoir la façon ou la réponse aux multiples besoins, on n'ira pas loin. Donc, tout le monde fait partie de la solution. Et on a besoin de tout le monde.
Oui, puis on ne peut pas se passer de personne.
Marie-Claude Maillet, Cindy Stewart, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre travail avec l'équipe de proximité.
Mais ça fut un plaisir.
Merci à toi.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.